France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Musique. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un écrivain, romancier et philosophe qui entretenait un rapport étroit avec la musique en général et en particulier avec celle de Beethoven. Cet auteur, c'est Jean-Paul Sartre. Sartre qui racontait dans son récit autobiographique Les mots que dès son enfance, il savait déjà que la fin de son existence se comparerait à celle de Beethoven. Il écrivait: plus aveugle encore que Beethoven ne fût sourd, je confectionnerai à tâtons mon dernier ouvrage. Et quelques années plus tôt, dans l'imaginaire, Sartre avait rapproché un portrait de Charles VIII de la septième de Beethoven et avait conclu en disant qu'il s'agissait dans les deux cas d'objets imaginaires existant hors du réel. Je n'entends point réellement la septième symphonie, je l'écoute dans l'imaginaire, écrivait Jean-Paul Sartre. Alors je vous propose qu'on entre un peu dans l'imaginaire de Jean-Paul Sartre en écoutant tout d'abord le premier mouvement de la septième symphonie de Beethoven dans la version de l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan. L'Orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, c'était le premier mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, une symphonie commencée pendant l'automne 1811, achevée l'année suivante en 1812 et donnée pour la première fois en concert le 8 décembre 1813 dans la grande salle de l'université de Vienne. L'orchestre était alors dirigé par Beethoven et Richard Wagner dira plus tard qu'il entendait dans cette symphonie l'apothéose de la danse. Un certain Müller, lui, entendait l'histoire d'un soulèvement populaire. Alors j'ignore critiqué ce Müller, mais son commentaire avait profondément agacé Beethoven, qui ne voulait pas que l'on accole un programme à son œuvre. C'est donc peut-être Sartre qui avait raison en écrivant qu'il n'entendait pas réellement cette symphonie, mais qu'il l'écoutait dans son imaginaire. Sartre, qui était un grand mélomane, il faut se souvenir qu'il a grandi dans une famille où la musique occupait une place importante. Sa mère n'était autre que la cousine d'Albert Schweitzer, ce médecin, docteur en philosophie, organiste et musicologue, également auteur d'un ouvrage de référence sur la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors bien sûr, je vous propose que nous écoutions un peu la musique de Bach avec quelques extraits de son Art de la Fugue, cette œuvre peut-être inachevée, peut-être volontairement laissée inachevée, cette œuvre que Bach a écrite sur quatre portées séparées, sans préciser quels étaient les instruments qui devaient jouer cette partition. J'ai choisi pour vous deux contrepoints, extraits de l'Art de la Fugue, une œuvre à laquelle Jean-Paul Sartre faisait référence dans les mots. Il écrivait que les personnes qui l'écoutaient parler avaient le même sourire qu'en écoutant l'Art de la Fugue. Cela montre ce que je suis au fond, un bien culturel, concluait Sartre. Alors on va écouter cet Art de la Fugue de Bach. Voici les contrepoints 8 et 9 sous les doigts de Grégory Sokolov. Thank you. Les contrepoints 8 et 9 extraits de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, interprété par Grigori Sokolov, un très bel enregistrement de cet art de la fugue réalisé en 1982 à Saint-Pétersbourg.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Et je vous propose de voyager un peu à présent. On va écouter Les Hébrides, une ouverture composée par Félix Mendelssohn en décembre 1830. Alors quelques mois avant d'écrire cette œuvre, Mendelssohn avait visité l'Écosse pendant l'été 1829 avec un ami. En juillet, il a d'abord l'idée de composer une symphonie et en août, pendant une excursion aux Hébrides extérieures, Mendelssohn écrit à sa famille « Afin de vous faire comprendre l'effet extraordinaire que les Hébrides ont exercé sur moi, j'ai écrit ce qui suit, qui m'est venu à l'esprit. » Alors ce qui suit, ce sont les 10 premières mesures de l'ouverture des Hébrides. À ce moment-là, Mendelssohn était en vacances, il était donc hors de question de travailler, il n'avait peut-être pas de papier à musique à portée de main. Il faudra attendre un an et demi avant qu'il achève son ouverture. Il la termine à Rome, l'intitule d'abord L'île solitaire. Il la modifie car il trouve qu'elle a le goût du contrepoint plus que de l'huile de baleine, des goélands et de la morue salée. Il la modifie donc pour arriver en 1832 à la version que nous connaissons aujourd'hui. Et je dois vous avouer que si je vous invite à écouter cette ouverture, c'est parce qu'elle est magnifique évidemment, mais aussi parce que Sartre, toujours dans les mots, nous dit qu'il demandait parfois à sa mère de lui jouer cette ouverture au piano. Voici donc Les Hébrides de Félix Mendelssohn dans cette version absolument incroyable, enregistrée en juin 1971 par l'orchestre de chambre anglais dirigé par Benjamin Britten.
Thank you.
Les Hébrides, ouverture opus 26 de Félix Mendelssohn dans cette version très inspirée, une version de concert comme vous l'entendez, de l'orchestre de chambre anglais dirigé par Benjamin Britten. Et c'est avec la musique de Frédéric Chopin que nous allons continuer cette émission. Chopin et sa troisième ballade pour piano, peut-être une des œuvres que Sartre jouait puisqu'il raconte qu'il jouait les ballades de Chopin. Des ballades qui auraient été inspirées, si l'on en croit les propos de Robert Schumann, par les ballades du poète Adam Mickiewicz. En l'occurrence, pour cette troisième ballade, il s'agirait d'Ondine, un poème qui raconte l'histoire d'un jeune homme entraîné par les flots qui est condamné à poursuivre en vain l'Ondine qu'il ne parviendra jamais à atteindre. Cette troisième ballade étant la bémol majeur, une tonalité chère à Chopin, commencée en 1840 et achevée l'année suivante, en 1841. Schumann considérait que c'était l'une des pages les plus originales de Chopin, et lors de la création donnée par Chopin au piano en février 1842 à Paris, on pouvait lire dans la Gazette musicale que c'était l'une des compositions les plus achevé de Monsieur Chopin. C'est de la poésie traduite, mais supérieurement traduite par les sons. Il nous fallait donc un poète du piano pour nous interpréter cette troisième ballade de Chopin, et j'ai choisi pour vous sur France Musique l'interprétation du pianiste Choura Cherkassky. Fabuleuse interprétation, tout en souplesse, avec une ligne de chant absolument exquise. C'était le pianiste Choura Cherkassky, enregistré en janvier 1958 dans cette troisième ballade en la bémol majeur de Frédéric Chopin.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Alors, ce que je devrais vous faire écouter maintenant, ce sont les variations symphoniques de César Franck, car c'est l'une des œuvres qui a bercé l'enfance de Jean-Paul Sartre. Malheureusement, le temps va nous manquer pour écouter en entier cette œuvre assez vaste. Alors, j'avais quand même envie de vous faire écouter du César Franck, avec en particulier le troisième mouvement de sa symphonie en ré mineur, une symphonie achevée au bout de 2 années de travail, avec une dédicace de Franck à l'un de ses élèves préférés, Henri Duparc. La première exécution a lieu le 17 février 1889 et deux compositeurs renommé avait exprimé ouvertement qu'il n'appréciait pas cette œuvre, c'est Charles Gounod et Ambroise Thomas. Thomas va dire qu'il y a trop de changements de tonalité et Gounod va dire une chose très cruelle, il va dire que c'est l'affirmation de l'impuissance poussée jusqu'au dogme. Alors ils étaient sans doute jaloux, ces deux compositeurs, car vous allez l'entendre avec ce final, c'est une œuvre qui possède de nombreux charmes. On pourrait dire que c'est un mélange de la poésie de Liszt et du côté architectural des œuvres de Beethoven. D'ailleurs, Franck le disait lui-même au sujet du dernier mouvement, il disait le final, ainsi que dans la 9e symphonie de Beethoven, rappelle tous les thèmes, mais ils n'apparaissent pas comme des citations. J'en fais quelque chose, ils jouent le rôle d'éléments nouveaux. Voici donc le final Allegro non troppo de la symphonie en ré mineur de César Franck par l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Armin Jordan. Le troisième mouvement de la symphonie de César Franck par l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Armin Jordan. Et on va se quitter avec la musique de Frédéric Chopin, car Sartre disait dans Les mots toujours que, prise à dose massive, la musique agissait enfin comme un tambour vaudou. Le piano m'imposait son rythme, la fantaisie impromptue se substituait à mon âme, elle m'habitait, me donnait un passé inconnu, un avenir fulgurant et mortel. La fantaisie impromptue, c'est bien sûr la fantaisie impromptue de Chopin que nous écoutons sous les doigts de Cyprien Katsaris. Cette version éminemment distinguée de la fantaisie impromptue de Frédéric Chopin par Cyprien Katsaris, avec cette œuvre que s'achève cette émission, préparée par Cécile Bonnet des Claustres, Bruno Rioux-Maillard à la réalisation et Alex Billard pour la prise de son. Un très grand merci à tous les trois. Toutes les références des œuvres que nous avons écoutées sont à retrouver sur le site de France Musique. On se retrouve dès demain à 17h et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée.
À réécouter sur francemusique.fr.